Alors bonjour à tout le monde et à ceux qui nous visitent. Peut-être une pensée, un bonjour particulier à Rosie. Hein? Bon, on est sûr maintenant que tu comprends et parles le français aussi bien que nous. Hein? Voilà, tu sais combien on est heureux de te voir et de te recevoir. Alors comme beaucoup le savent, nous arrivons avec Dany de passer les fêtes en famille dans la plus belle ville de France, Toulouse, dont nous vous ramenons bien sûr toutes les salutations fraternelles de l'église de la rue Legendre à Toulouse. Alors certains d'entre vous la connaissent, eux aussi certains d'entre vous connaissent, et c'est ainsi qu'on peut chaleureusement se passer les salutations. Alors notre projet pour ce début d'année en tout cas, c'est que nous puissions passer en revue les 16 chapitres de l'évangile de Marc, un par dimanche. Alors ce ne sera pas tous les dimanches d'affilée, puisque le deuxième chapitre, donc le prochain, ne sera traité que le dimanche 25. Donc nous n'évoquerons ce matin que le premier chapitre, et seulement sous un certain aspect. Alors, des quatre évangiles, celui de Marc est le plus court et très probablement également le plus ancien. La plupart des commentateurs attribuent sa rédaction à un certain Jean, surnommé Marc, qui a été un compagnon fidèle de Pierre en particulier. L'approche de cet évangile est différente des trois autres dans le sens où il n'évoque ni la naissance miraculeuse et circonstancielle du Seigneur, ni son adolescence. Cet évangile raconte l'histoire de Jésus en tant que parfait serviteur de Dieu. Et le récit met l'accent sur les paroles et surtout les actes du Seigneur, depuis son baptême jusqu'à sa mort et sa résurrection. Nous allons prendre 4 à 5 minutes pour faire la lecture donc de ce premier chapitre de Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, « Voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait disant « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi ». Et je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et préparaient les filets. Aussitôt, il les appela. Et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine. Ils commandent avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans les lieux environnants de la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main et en laissant la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand ils l'eurent retrouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ». Ils leur répondirent « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y presse aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues pendant par toute la Galilée, et il chassa les démons. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier ouvertement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Voilà donc le cadre de ce premier chapitre, mais comme je l'ai dit, nous n'évoquerons qu'une certaine manière de le faire. Alors, on voit dans faisant un court résumé, donc la première partie décrit l'œuvre de Jean-Baptiste, l'homme qui a précédé et annoncé la venue et les œuvres du Seigneur. Vient après moi celui qui est plus grand que moi. D'autres évangiles diront « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde ». On trouve également dans cette première partie le baptême de Jésus où Dieu le Père profite de cette occasion pour déclarer avec force le lien qui l'unit à Jésus, le proclamant Fils bien-aimé. Et enfin, son séjour de 40 jours dans le désert, où, dans des conditions extrêmement dures, difficiles, il va être confronté aux tentations du diable, sans jamais y succomber, en confirmant sa divinité et sa supériorité sur le mal et sa personnification, Satan. Ensuite, la deuxième partie, c'est jusqu'à la fin, à partir de versets 21 à 45, ils décrivent ce qui marque en fait le début de son ministère. Dans la synagogue, par sa prédication, Jésus interpellait les érudits de son temps. C'est à cette époque qu'il fait le choix de disciples et les invite à le suivre un par un, ce qu'il n'hésite pas à faire. Ensuite, que ce soit à Capernaum ou en Galilée, Jésus va poser les bases de son évangile qui sera accompagné des œuvres en faveur des personnes malades ou des personnes possédées. En fait, dans ce premier chapitre, un seul verset dit tout, le premier, hein, commencement de l'Évangile, annoncer la bonne nouvelle qui concerne Jésus, qui est le Messie, qui est le Sauveur. Alors si Jean-Baptiste, qui le précédait, inscrivait donc son message sous le signe, je dirais, de la préparation, de l'attente, Jésus lui faisait sa proclamation dans l'instant. Verset 15, il dit « Le temps est accompli ». Il y a dans le Nouveau Testament plusieurs mots pour désigner le temps. Celui dont il est question ici, ce n'est pas le chronos, c'est-à-dire le temps qui s'écoule, un peu comme il se répétait un cycle à l'infini. Mais il s'agit là du kairos, c'est-à-dire le moment particulier de la faveur et de l'action de Dieu. Le royaume de Dieu s'est approché, ce qui fait irruption dans notre temps n'est rien moins que l'autorité de Dieu dans la personne divine de Jésus. Et c'est aussi pourquoi j'ai choisi pour titre et pour sujet ce matin sur ce premier chapitre, sous le signe de l'autorité. Alors, sous le signe de l'autorité, d'abord, une autorité fondatrice. Au verset 1, nous lisons « Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ ». Alors, cela évoquera sans doute pour beaucoup parmi nous le début du livre de la Genèse, où il nous est dit « Au commencement, Dieu créa ». Et l'on s'attend, quand on lit ça, à ce qu'il va se passer derrière quelque chose d'extraordinaire. De la même manière, l'expression « commencement de l'Évangile de Jésus-Christ » nous prévient que quelque chose, des faits et des paroles tout aussi extraordinaires vont se dérouler. De la même manière que l'expression de la Genèse « Dieu dit » précède l'instant où la chose est, ce qui souligne l'efficacité et l'autorité de la parole de Dieu, de la même manière les termes « au moment » ou « aussitôt » qui apparaissent plusieurs fois dans ce chapitre et dans tout le livre de Marc, marquent l'instantanéité entre ce que Jésus dit ou fait et son application immédiate. Alors peut-être que cela peut aussi évoquer pour nous le niveau du vrai service. Un service accompli spontanément, avec empressement et sans délai. Ainsi, l'évangile de Marc au premier chapitre souligne d'entrée, comme le fait la Genèse, l'autorité de la parole de Jésus, autorité qui va guider et soutenir tout son ministère. Alors d'après le dictionnaire, autorité est un emprunt ancien au latin auctoritas. On voit que c'est dérivé du terme auctor, qui désigne le fait d'être fondateur. Fondateur de quelque chose, conseiller, garant et aussi auteur responsable d'une œuvre. On peut donc dire que l'autorité dont est investi Jésus par le Père est une autorité fondatrice. Il est l'auteur et le responsable d'une œuvre qu'il débute dès son baptême, au moment où l'Esprit apparaît comme une colombe et vient sur lui. Ainsi, Jésus va faire preuve de son identité divine dans son enseignement et dans ses gestes de guérison qu'il va proclamer et réaliser avec autorité divine. ces derniers temps, certainement, que ce soit ici ou dans vos foyers, vous avez lu les textes d'Ésaïe, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Octor. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Jésus est celui qui vient pour faire la volonté du Père, qui est autorité sur tout. Alors, sous le signe de l'autorité, c'est aussi une autorité incarnée ou établie, je dirais, par Dieu lui-même. Les prophètes ont mentionné la venue de Jésus par cette phrase qu'il prononce à son Père : « Voici, je viens pour faire ta volonté ». Le célèbre évangéliste Fernand le Grand a pu dire, entre autres, « Je crois à la Bible parce qu'elle révèle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur. » L'évangile de Jean, lui, au chapitre 1, c'est le texte certainement le plus précis qui affirme la divinité de Jésus-Christ. Et dans ce même évangile de Jean, premier chapitre, au verset 18, il confirme « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père ou dans l'intimité du Père, est celui qu'il a fait connaître. Dieu, le Fils unique. » C'est ce que nous rapporte ce texte de Marc 1, où l'Esprit de Dieu révèle d'emblée l'identité de Jésus, Fils unique de Dieu, bien-aimé du Père. Le baptême de Jésus et le séjour au désert inaugure donc sa vie publique de serviteur du Père. L'Esprit le pousse dans le désert pour y affronter Satan, l'adversaire de Dieu et de ses fidèles. Dès le premier chapitre, nous voyons un climat d'hostilité qui se révèle à l'encontre de celui qui vient annoncer la bonne nouvelle. Dès lors, l'opposition sera constante entre Satan et ses représentants, d'une part, et Jésus, de notre côté. Et les différentes situations qui ont été mentionnées, que nous avons lues dans ce chapitre, sont autant d'exemples. Jésus est venu pour vaincre la mort, et sa victoire sur celle-ci, c'est la défaite de Satan. Ensuite, une autorité exprimée. C'est rapide, c'est le choix des disciples, versets 17 et 18. Jésus leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Alors le mot « aussitôt », comme on l'a évoqué tout à l'heure, souligne tout simplement l'autorité du « suivez-moi », qui n'est pas une simple invitation. Dès ses premières paroles, Jésus fait preuve d'autorité dans le sens où elles appellent une obéissance immédiate. Un appel auquel les disciples ne peuvent pas résister. Ensuite, il y a l'autorité proclamée. C'est la partie dite de l'enseignement. Nous découvrons comment, un jour de sabbat, Jésus est entré dans la synagogue à Capernaum pour y enseigner. Alors ce qui est étonnant, c'est que ce que révèle Marc, ce ne sont pas les paroles de Jésus. En tant qu'enseignement, il n'y en a pas. On ne peut même pas les commenter. Mais ce qu'il souligne, c'est la réaction de l'auditoire. Et ils étaient frappés de son enseignement, car il les enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. La foule a noté l'autorité du prédicateur, et cela en opposition à la manière des scribes. Alors les scribes, ils étaient chargés de garder la loi et de l'enseigner
dans le but de la faire appliquer. Esdras, par exemple, et c'est un bon exemple, a rempli à merveille son rôle quand on lit dans ce livre, au chapitre 7 et verset 10, « La bonne main de son Dieu était sur lui, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner à Israël les lois et les ordonnances de Dieu. » C'est le verset 10 du chapitre 7 d'Esdras. Mais les successeurs d'Esdras, au lieu de servir Dieu et son peuple, servaient leurs propres intérêts. Voici ce que le Seigneur dit, parlant d'eux, dans Matthieu. « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. » Aussi, les scribes, au lieu de préparer le peuple à reconnaître Jésus, ils l'incitent à le calomnier. Ils se rendront même plus tard complices de sa crucifixion. Alors les scribes étaient des savants religieux, des théologiens parfaitement instruits de la loi de Moïse, et leur autorité s'appuyait sur la connaissance qu'ils avaient des Écritures. À l'opposé, Jésus, bien qu'il fasse bien sûr à référence aux Écritures, fait ressortir un message radicalement différent. Pas un message qui impose des préceptes, impose des normes de vie, mais un message qui fait découvrir le Messie, l'envoyé de Dieu. Un message qui n'a pas d'autre but que de faire découvrir lui, le Christ, le Sauveur. Jésus adresse ce message à toute personne qu'il rencontre, que ce soit dans ou en dehors des synagogues. Et il l'adresse aussi aujourd'hui à chacun d'entre nous. Tout est dit et tout est cité dans la parole de Dieu pour que chacun ait l'occasion de découvrir Jésus comme Dieu incarné, sauveur de l'humanité. Et donc, moi, en tant qu'individu, j'ai tout pour le découvrir. Toi aussi, en tant qu'individu, tu as tout dans cette parole pour le découvrir. Mais pourquoi son message fait-il autorité, même encore aujourd'hui? La différence entre les deux enseignements, celui des scribes et celui de Jésus, se résume en un mot, autorité. L'autorité de Jésus est autorité pas simplement parce qu'elle interpelle l'auditoire, mais parce qu'elle interpelle les consciences, et surtout parce qu'elle est capable de changer les cœurs, encore aujourd'hui. Ensuite, autorité appliquée. Alors, il y a toutes ces parties que l'on a lues qui sont de délivrance et de guérison. Juste après qu'il nous ait précisé que Jésus enseignait avec autorité, il nous est conté le fait que Jésus chasse un esprit impur. Ce qui fait dire aux scribes, il commande avec autorité même aux esprits impurs. Verset 27. Alors même que les scribes, et certainement la foule qui est là, s'interroge, l'esprit mauvais, lui, reconnaît l'identité de Jésus au verset 24. « Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Et Jésus de lui dire « Tais-toi. » Ce qui signifie plus exactement « museler » ou « bâillonner avec autorité ». L'acte d'exorcisme, notamment par les rabbins, était courant à l'époque de Jésus. Mais la méthode employée par Jésus était radicalement différente. Les rabbins avaient recours à des formules magiques. Mais Jésus, lui, se servait de sa propre autorité. Jésus a confronté et chassé ces êtres démoniaques. Et ces esprits avaient souvent reconnu et tenté de s'adresser à Jésus. « Je sais qui tu es. Je sais pourquoi tu es venu. » Mais Jésus a rejeté leur témoignage. Et il leur a imposé de se taire pour finir par les chasser. En fait, l'exorcisme que Jésus opère est un signe de la défaite du royaume de Satan. Les hommes et les femmes du temps de Jésus, et encore aujourd'hui de nos jours, ne doivent pas croire en Jésus par le moyen du témoignage des démons. Mais ils devaient croire en Jésus, et nous devons croire en Jésus, par le moyen de ce qu'il disait, ce qu'il dit être, et par le moyen de ce qu'il a fait, de ce qu'il a accompli. Le témoignage que nous sommes invités à recevoir, c'est celui de Jésus. C'est celui de son évangile, clamant et démontrant l'efficacité de la bonté de Dieu en Jésus-Christ. La source de l'autorité de Jésus est devenue le principal sujet de discorde entre Jésus et les leaders juifs. Puisqu'ils ne pouvaient pas nier sa puissance, ça les interpellait même, hein, ni son autorité, c'est eux qui emploient ce terme, ils s'attaquèrent alors à la source de celle-ci, sa divinité. Et cet acte constituait un péché impardonnable. En effet, nier la divinité de Christ, c'est nier Dieu. C'est un péché impardonnable. Alors que de confesser Jésus comme Dieu et comme Sauveur donne accès au pardon et au salut. Enfin, une mission dévoilée. Au verset 35, il nous est dit « Le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert pour y prier. Simon et ses compagnons partirent à sa recherche. Quand ils l'eurent retrouvé, ils lui dirent « Tout le monde te cherche. Allons ailleurs, leur répondit-il, dans les villages voisins, pour que j'y prêche. » Une autre version dit « Afin que j'y apporte aussi mon message, car c'est pour cela que je suis venu. » Bien sûr que Jésus est venu dans les mondes dans des conditions qui le rapprochent des pauvres. Il est né dans une étable, il est né dans une famille modeste, qui plus est, qui était en fuite. Bien sûr que Jésus a vécu son ministère dans la proximité des exclus. Il fréquentait ce qui n'était pas fréquentable ou simplement marginalisé. Les prostituées, les lépreux, les gens du peuple. Et il opérait de nombreux miracles en leur faveur. Oui, c'est vrai. Mais l'objectif de Jésus sur terre n'était pas de guérir les hommes de leurs maladies ou de leurs infirmités. Je suis attristé souvent en certaines circonstances ou milieux que ces actions-là de guérison et de délivrance prennent la première place, laissant peut-être entrevoir de fausses espérances pour ceux qui sont touchés et faisant fi de la souveraineté de Dieu. Certes par amour profond, certes par compassion et par compassion divine, Jésus a mis en œuvre sa puissance pour guérir, pour délivrer et même ressusciter des personnes. Encore oui, c'est vrai. Mais Jésus n'est pas venu participer à une œuvre humanitaire dans le cadre d'une ONG. Mais Jésus est venu accomplir le salut de l'humanité dans le cadre de la volonté du Père. S'il a accompagné son ministère de bonté et de bienfait envers beaucoup, l'objectif de sa venue était de répandre la bonne nouvelle du salut. Et c'est cette mission prioritaire que nous dévoile ce premier chapitre de Marc. C'est pour cela que je suis venu. Le moment fixé est arrivé, disait-il, car le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous, changez de comportement et croyez à la bonne nouvelle. Un message tout en autorité et en vérité. Alors en conclusion, je vous propose donc de terminer en 3 points, sous une forte sorte de rappel. Premièrement, se rappeler et se conforter. Deuxièmement, se rappeler et se réconforter. Et enfin, se rappeler et se conformer. Alors, se rappeler et se conforter de l'autorité de Jésus. S'appuyer sur elle dans nos doutes, tout autant que dans nos combats. L'autorité de Jésus est synonyme de victoire. Se rappeler et se réconforter, mais de la compassion du Seigneur, celle qu'il a démontrée, qu'il a exprimée, mais qu'il a encore et toujours en réserve pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Une compassion par délivrance, une compassion par l'encouragement, une compassion par le salut accordé. Et enfin, se rappeler et se conformer, c'était le sens de la prière de notre sœur Jacqueline tout à l'heure, à l'action d'évangélisation, répandre la bonne nouvelle du salut, c'est ce à quoi nous devons nous conformer. Et ça a été le but principal de notre Seigneur Jésus sur terre, et qui est donc devenu par nature la mission de ses disciples que nous sommes tous, je l'espère. Témoigner de lui, dire qui il est, expliquer ce qu'il a fait. Et nous pouvons le faire, investis que nous sommes de son autorité. Amen.